Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visst mörkt och kallt.
Bonjour. Vous allez entendre l'émission Invisible, la seule émission de télévision uniquement diffusée par la radio. Installez-vous devant votre fenêtre, allumez votre poste de télévision et coupez le son, feuilletez un livre illustré, courez à la première exposition venue de peinture ou de photographie, ou, si vous êtes en voiture ou en train, observez attentivement le paysage. Vous avez les images, nous apportons le son.
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst.
Cette émission est réalisée et présentée par Alain Brousse.
Det ena eller andra och levat livet tills jag krossades en dag. Det börjar med att du bedrog mig med en annan, en som du sa var mycket finare än jag.
Pour commencer cette émission, miroir d'astrologie, d'après les textes de Max Jacob et Claude Valence, publiés chez Gallimard en 1949.
Les dames du deuxième décan du Capricorne, du 31 décembre au 11 janvier. Le Capricorne, tel qu'il apparaît dans le premier décan, est déjà tout entier pour ceux qui le connaissent dans sa tanière, dont il ne sort qu'avec un masque de cérémonie, sauvage, intellectuel, mondain. C'est dans cette tanière qu'Irène méditait sa mission, faire quelque chose. Mais quoi ? Rien ne vaut la peine d'être tenté que l'impossible, disait-elle. La fortune ne la séduisait pas, tant elle était certaine de l'avoir bientôt. Ça viendra toujours. Ni l'étude persuadée qu'elle apprendrait ce qu'elle voudrait quand elle le voudrait. Un mari, des enfants. Un mari, oui, on verra. Mais des enfants, ah non. Non, pour le moment, elle était silencieuse chez ses parents, boudant dans sa chambre, s'y promenant les bras croisés sur la poitrine. Quand il y avait du monde, elle paraissait richement habillée, avec un sourire mi-boudeur, mi-poli. Le matin, elle sortait mystérieusement, elle allait à la piscine. Elle y rencontrait des adolescents auxquels elle répondait brièvement quand elle daignait sortir de son rêve solitaire, et toujours avec ce sourire mi-boudeur, mi-poli. Mon premier amant, un artiste, ne put obtenir beaucoup plus que des paroles, ni un autre sourire. Pourtant, c'est par lui qu'elle quitta sa famille. Leur appartement était fort bien tenu, la cuisine excellente et très simple. Un jour, elle partit en coup de tête sans laisser ni mot, ni adresse, ni explication. Elle songea un moment au théâtre, mais la discipline des répétitions ne pouvait convenir à cette indépendante et le fait de parler pendant des heures répugnait à cette silencieuse. Elle me dit un jour « J'aurais voulu être capitaine de Dieu comme Jeanne d'Arc. » Notez qu'elle ne croit pas en Dieu. Je ne crois que ce que je touche. Elle ouvrit un cours de gymnastique où sa douceur et la politesse lui attirèrent du monde. Elle n'est pourtant pas douce. Mais sa violence est ailleurs. Où ? aux anneaux, à la barre fixe, aux avirons, quand elle rame. Irène a le front bas, de grands sourcils, des pommettes saillantes, le teint frais, les grandes dents blanches, le cou rond et ivoirien. Elle a épousé en juste noce un grand médecin qui l'adore. C'est une épouse admirable. Elle plaît beaucoup dans le milieu. Son mari ne lui reproche que ses longues bouderies coupées de sourires. Les amis la trouvent naturelle, simple, positive, intelligente. Elle se juge une ratée. Aussi, elle est intimement misogyne, misanthrope, malgré ses airs bon enfant aimables. Elle ne peut être plus contente que si on la laisse seule au coin du feu avec un livre. En vieillissant, elle s'occupe moins de piscine et de sport. Elle conserve des bijoux qu'elle ne porte pas et songe à placer avantageusement les gains de son mari qui sont considérables. Elle se croit punie de quelque chose. Elle ne sait pas de quoi ni par qui. Elle se voûte. Les dames du troisième décan du Capricorne sont les sœurs de la dame du premier décan. Elles se ressemblent toutes les deux, mais la frivolité enfantine de l'une est chez sa sœur franche gaieté solaire qui s'unit fort bien au travail. La dureté sèche de Madame Gagelin devient de belle colère qui repose sur la raison et la connaissance de son droit, s'exprime en franc-parler agréable. Les prétentions sont aussi peu théâtrales et mondaines, mais ont leur fondement sur un joli goût pour le beau, la nature, et sur des réalisations bien concrètes de la vie. Cette sœur Évelyne n'a eu de bonheur ni en mariage, ni en enfant. Elle est trop intelligente pour s'en plaindre, et trop profondément philosophe. Elle s'est consolée en faisant elle-même sa fortune dans une jolie boutique menée adroitement. Elle a un bel intérieur plein d'objets précieux qu'elle a su acquérir à bas prix, plein de fleurs qu'elle faisait renouveler chaque semaine. Elle lit les journaux, dont elle se moque doucement, et où elle sait prendre ce qui l'intéresse. Dans son arrière-boutique, il y a toujours quelques fonctionnaires lettrés de la ville qui estiment sa conversation gracieuse et spirituelle. Mais elle le quitte pour recevoir un client ou donner un ordre à la cuisinière qu'elle surveille de fort près. Sa plus grande joie est une promenade en voiture, le dimanche, à la campagne, et le repas sous les arbres. Elle aurait aimé la toilette et les coquetteries. Elle n'a pas eu le temps de s'en occuper. Elle achetait des robes, mais elle ne les mettait jamais. En vieillissant, son caractère devint un peu difficile. Elle souffrait d'une maladie grave que personne n'a jamais connue que son médecin. Elle était discoureuse, bavarde, et faisait à chacun la leçon d'une voix lente en tenant longuement une prise de tabac entre le pouce et l'index. Tous ceux qui l'ont connue ont gardé d'elle un délicieux souvenir. Thank you.
Aujourd'hui, nous découvrons dans le cabinet de curiosité un objet qui n'est extraordinaire ni par sa forme, ni par son usage, encore qu'il soit rare, mais par son histoire. C'est en effet un couteau d'un modèle un peu particulier. D'une longueur totale de 27 cm, il possède une étroite lame de 18 cm de long et de 2 cm de large, en acier inoxydable et à double tranchant. Une garde en forme de croix mais dont l'une des branches est tordue, et enfin un manche auquel il manque le parement. Le talon de la lame porte gravé un ovale dans lequel figure un aigle, surmonté du mot « inox » et souligné du mot « France ». Sur la lame elle-même, dans le sens de la longueur, sont gravés de part et d'autre de la nervure centrale le couteau volant, en lettres majuscules, puis en minuscules, équilibré pour lancer. Il s'agit donc, on l'aura compris, d'une arme de jet utilisée par les lanceurs de couteaux. Malheureusement, cet exemplaire précis ne servit pas seulement à impressionner les foules au cours de spectacles de cirque ou de music-hall, puisqu'il fut retrouvé dans le corps d'une jeune femme le 27 octobre 1926 sur la scène des ambassadeurs. 150 spectateurs venaient d'applaudir le grand Antoine Berval et attendaient avec une impatience perceptible le numéro de chant et de cinéma de Gina Palerme, lorsque le présentateur annonça sous les sifflets qu'en raison d'une agression subie au cours de la nuit précédente, la grande artiste serait remplacée par une démonstration du lanceur de couteau argentin Gustavo K et de sa gracieuse partenaire. L'Argentin parut d'un côté de la scène, tandis que sa compasse entrait de l'autre. L'homme avait des yeux étrangement fixes, qui semblaient regarder ailleurs, plus loin que les rangées de spectateurs. Quant à la jeune femme, sa miraculeuse beauté fit instantanément ravaler toutes les protestations. Sans même se concerter, on la baptisa Aphrodite en dépit du fait qu'elle soit sud-américaine. Réalisant ce qui allait se produire, c'est-à-dire que cette jeune femme allait servir de cible au lanceur de couteau et que celui-ci allait diriger vers elle ses lames aiguisées de façon à la frôler sans jamais la toucher, la salle émit un son étrange, un cri d'effroi secret, presque inaudible, suivi d'une profonde inspiration qui ne se relâcherait qu'avec la délivrance de la cible humaine intacte. Au signe de l'Argentin, la musique se tut. La jeune femme se pressa contre la grande roue de bois peinte en rouge et ouvrit les bras comme pour mieux exposer son cœur. Elle ferma les yeux. L'Argentin arma son bras et le tint quelques longues secondes au-dessus de la tête avant que d'un coup il ne le détende et que ne fuse la lame d'acier vers sa cible. Au lieu d'un coup sec, on entendit un son tendre. Aphrodite releva les paupières, entr'ouvrit les lèvres avant que sa tête ne retombe sur son torse. Lancé avec une force diabolique, le couteau lui avait instantanément ôté la vie en lui tranchant l'aorte et, poursuivant sa trajectoire, s'était planté dans la cible de bois contre laquelle elle se tenait, la retenant debout, aussi inerte que l'insecte épinglé sur le liège de l'entomologiste. Un cri d'effroi souleva la salle. L'enquête démontra rapidement que les deux partenaires étaient mari et femme. Ils se produisaient de salle en salle depuis déjà 2 ans et jamais le moindre incident n'était venu perturber leur spectacle. Anéanti par son acte, le mari ne reconnut ni ne contesta les faits. Il déclara avoir traversé une sorte d'absence au moment de lancer son couteau et que lorsqu'il avait repris conscience, il avait découvert avec terreur sa femme transpercée. Le médecin qui l'ausculta décréta qu'il était en parfaite condition physique et mentale. L'affaire était entendue. Et le lanceur de couteau fut emprisonné en attendant son procès. Un journaliste, pourtant, fit un curieux rapprochement entre l'absence de Gina Palerme et l'accident qui venait de se produire. L'un n'allait pas sans l'autre. Comme l'ignorait la police parisienne, la grande vedette avait été victime au cours de la nuit précédente d'une étrange agression. Vers 4h du matin, 2 coups de feu avaient été tirés à travers de la fenêtre de sa chambre, au premier étage de sa villa de la Varenne-Saint-Hilaire. Les agresseurs avaient fui sans demander leur reste, et le commissaire de police de la Varenne-Saint-Hilaire n'avait pu que constater la hardiesse des agresseurs qui, pour atteindre la fenêtre, avaient dû lier les unes aux autres 3 solides échelles. La victime avait immédiatement suspecté une vengeance. Bouleversée par cette tentative de meurtre, elle n'avait pu se produire le soir même aux ambassadeurs, ce qui avait amené la direction de l'établissement à faire se produire les artistes de réserve. on dépêcha deux enquêteurs accompagnés du journaliste auprès de Gina Palerme. Cette dernière n'avait rien d'italien, mais née Irène de Maulmont, vieille noblesse limousine, cette séduisante demi-mondaine descendait tout de même par Louise Borgia, de Cesare Borgia, et donc de Rodrigo Borgia, mieux connu sous le nom d'Alexandre VI, pape de 1492 à 1503, et réputé pour ses mœurs dissolues. Cette ascendance justifiait un nom de scène aux consonances transalpines. Les policiers via Gina Palerme blêmir au récit qu'ils lui firent du drame. Lorsqu'elle s'affaissa sur le canapé de son salon, en se couvrant le visage de ses mains délicates, le journaliste, lui, crut l'entendre distinctement souffler « Fantomas ». Les policiers, eux, n'avaient rien entendu, comme toujours. À l'époque, quantité de vols et de crimes se produisaient dans Paris, et la légende de Fantomas y était déjà bien installée. Je parle là du véritable Fantomas, celui dont Robert Desnos dit, allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, « Quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence ?»« Fantomas, serait-ce toi qui te dresses sur les toits ?» Était-ce en effet les sbires de Fantomas qui avaient tiré deux coups de feu au travers de la fenêtre de Gina Palerme ? Le fait qu'elle n'ait pas été atteinte et que le tireur n'ait pas assisté faisait croire une intimidation plutôt qu'une tentative de meurtre. Ils avaient volontairement raté leur cible, mais l'avaient suffisamment bouleversée pour lui faire annuler sa représentation du soir. Le journaliste comprit rapidement que ce faux attentat visait à amener sur scène l'Argentin et sa belle et de tuer ou faire tuer la jeune femme. Puisqu'en l'occurrence, 150 témoins pouvaient attester que le lanceur de couteau avait bien commis l'irréparable, une seule explication restait plausible, l'Argentin obéissait à un ordre ou avait été drogué ou...
Que me racontez-vous ? Le lanceur de couteau inoptisé ? Vous payez ma tête, jeune homme.
Pas du tout, commissaire, je vous assure. Il y a une autre explication, et le vrai coupable est Fantomas. C'est Fantomas qui l'a hypnotisé afin qu'il tue sa femme. Et je peux même vous dire pourquoi.
Dites-moi ça.
J'ai fait des recherches, je me suis permis d'interroger une seconde fois les protagonistes et j'ai passé un long moment avec Gina Palerme. Saviez-vous qu'elle descendait des Borgia ?
C'est une blague que vous me dites là.
Pas du tout. Vous aurez tout le temps de vérifier auprès d'elle ou de son notaire. Mais écoutez-moi plutôt. Vous n'ignorez rien de l'immense orgueil de Fantomas. Il est déjà reconnu pour le pire bandit de tous les temps, mais ce n'est pas assez pour une âme aussi sombre. Fantomas de surcroît vieillit. Il doit penser à ses descendants comme tout homme. Alors pourquoi pas cette Gina Palerme qui, dit-on, descend des Borgia ? Des bandits bien plus grands que lui, puisqu'ils sont, eux, passés à l'histoire. Quelle apothéose pour Fantomas que de se lier à la grande famille des Borgia et d'y associer son nom. Quelle gloire pour lui que d'engendrer un fils ou une fille issu de leurs deux sangs. Je vous fiche mon billet qu'il a tenté de séduire l'actrice, qu'elle l'a éconduit, et que le meurtre de l'Argentine n'est que l'ultime avertissement que lui adresse Fantomas. Fantomas a hypnotisé le lanceur de couteau, et c'est une sorte de marionnette humaine, entièrement soumise au décret de son maître, qui a assassiné sa femme. Gustavo K. est innocent. Ce qui se passa par la suite appartient aux archives de la police et ne fut jamais rendu public. On apprit toutefois par des indiscrétions que Gina Palerme fut convoquée au Quai des Orfèvres, qu'elle subit plusieurs interrogatoires et qu'elle finit par avouer avoir rencontré Fantomas à plusieurs reprises, mais qu'en raison de ses déguisements, elle était incapable de le décrire. Il lui avait effectivement proposé le mariage, mais elle avait refusé. On ne sait ce qui fut décidé, mais il est fort possible que la police choisit d'utiliser Gina Palerme comme appât pour capturer Fantomas, que celui-ci qui était tout sauf un idiot, flaira le piège, et qu'il abandonna ses prétentions matrimoniales envers l'exquise Gina Palerme, dont le sang pourtant drainait tant de promesses. Encore une fois, Fantomas échappa à la justice.
Écoutez, faites silence, la triste énumération de tous les forfaits sans nom, des tortures, des violences, toujours impuni, hélas, du criminel Fantomas. Lady Beltham, sa maîtresse, le vit tuer son mari, car il les avait surpris au milieu de leurs caresses. Il coula le paquebot, Lancaster, au fond des flots. Sans personne, il assassine mes jupes et des défendeurs, va lui faire subir son sort, enfin sur la guillotine. Mais un acteur très bien grimé, à sa place est exécuté. Un phare dans la tempête, s'écrouler les pauvres bateaux, font naufrage au fond de l'eau. Mais surgissent quatre têtes, Lady Beltham aux yeux d'or, Fantômas, Juve et Fandor. Le monstre avait une fille, aussi jolie qu'une fleur, la douce Hélène au grand cœur, ne tenait pas de sa famille, car elle sauva Fandor, qui était condamné à mort. En consigne d'une gare, un colis ensanglanté, un escroc est arrêté, qui est devenu le cadavre. Le cadavre est bien vivant, c'est Fantômas, mes enfants. Prisonnier dans une cloche, sonnant un enterrement, ainsi mourut son lieutenant, le sang de sa pauvre caboche, avec saphirs et diamants, pleuvé sur les assistants. Un beau jour, des fontaines, soudain chantèrent à Paris, le monde était surpris, ignorant que ces sirènes, de la Concorde enfermaient, un roi captif qui pleurait. Certains secrets d'importance allaient être dits au tsar. Fantômas, lui, le reçut calme, ayant pris sa ressemblance, il remplaçait l'empereur. Quand Juve l'arrêta sans peur, il fit tuer par la Toulouche, vieillard aux yeux dégoûtants, un Anglais à grands coups de dents, et le sang remplit sa bouche. Puis il cacha un trésor dans les entrailles du mort. Cette grande catastrophe de l'autobus qui rentra dans la banque qu'on pilla, dont on éventra les coffres, vous vous souvenez de ça, ce fut lui qui l'agença. La peste en épidémie ravage un grand paquebot, tout seul au milieu des flots. Quel spectacle de folie, agonie et mort hélas, qui a fait ça Fantômas? Il tua un cocher de fiacre, au siège il le fit cela, et roulant qu'un car, malgré les clients qui sacrent, il ne s'arrêtait jamais, fiacre qu'un mort conduisait. Méfiez-vous des roses noires, il en sort une langueur épuisante et l'on en meurt. C'est une bien sombre histoire, encore un triste forfait de Fantômas en effet. Il assassine à la mère de l'héroïque Fandor. Quelle injustice du sort, douleur poignante et amère. Il n'avait donc pas de cœur, cet infâme malfaiteur. Du dôme des Invalides, on volait l'or chaque nuit. Qui c'était? Mais c'était lui, l'auteur de ce plan cupide. User aussi mal son temps, quand on est intelligent. À la reine de Hollande, même il osa s'attaquer. Juve le fit prisonnier, ainsi que toute sa bande, mais il échappa pourtant à un juste châtiment. Pour effacer sa trace, il se fit tailler des gants dans la peau d'un trophée sanglant, dans de la peau de main de cadavre, et c'était ce mort qu'accusé, les empreintes qu'on trouvait. À Valmont doit un fantôme sur la rivière marcher. En vain Juve le chercher, effrayant vieillards et mômes. C'était Fantômas qui fuyait après le coup qu'il avait fait. La police d'Angleterre par lui fut mystifiée, mais à la fin arrêtée, fut pendue et mise en terre. Devinez ce qui arriva, le bandit en réchappa. Dans la nuit sinistre et sombre, à travers la tour Eiffel, Juve poursuit le criminel. En vain guette-t-il son ombre, faisant un suprême effort, Fantômas échappe encore. Mon casino, Monte Carlo, un cuirassé évolué. Son commandant qui perdait voulait bombarder la rade. Fantomas, c'est évident, était donc ce commandant. Dans la mer, un bateau sombre avec Fantomas à bord. Hélène, Juve et Fandor et des passagers sans nombre. On ne sait s'ils sont tous morts, nul n'a retrouvé leur corps. Ceux de sa bande, beau môme, bec de gaz et le bedeau, le rempart du Montparnasse ont fait trembler Paris, Rome et Londres par leurs exploits. Se sont-ils soumis aux lois? Pour ceux du peuple et du monde, j'écris cette chanson. Sur Fantomas, non le nom, fait tout trembler à la ronde. Maintenant, vivez longtemps, je le souhaite en partant. Allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantomas, serait-ce toi qui te dresse sur les toits?
Et c'est maintenant l'heure de retrouver Marc Mercier et le bulletin d'écoute d'Armand Robin.
3-6 janvier 1961, bulletin numéro 2. La situation politique internationale d'après les radios en langue étrangère. Remarque linguistique franco-arabe. Source principale. RTF en arabe, Radio du Caire, Radio du monde communiste en langue arabe, etc., etc. Cette très brève note porte sur des phénomènes linguistiques sensibles depuis quelques mois. Mais le processus s'est récemment accéléré. Il s'agit d'une invasion de mots français dans le langage politique arabe. Prenons les faits et analysons-les. Petit a. Dans la mesure où, tout seul, je puis contrôler l'immense planète radiophonique, je constate que la parole française en arabe, si on ose ainsi parler, prend une importance croissante. Elle est bien plus présente à toute heure qu'auparavant. Cette remarque toutefois, sous toute réserve. On le remarque notamment sur les ondes courtes jusque dans les premières heures de la journée, 10h, midi, heure de Paris. Petit b. On constate immédiatement, aussi bien dans les écoutes en arabe de la radio du Caire, que dans les écoutes de la RTF en arabe, que j'ai prises de façon exceptionnelle, l'apparition d'une sorte de nouveau vocabulaire arabe, en arabe littéral. Toutes sortes d'expressions employées en ces émissions ne sont pas arabisées. Par exemple, pour commencer par le plus immédiat, l'expression « référendum », etc., etc. Les expressions OECE, sécurité sociale, etc. Expression typiquement européenne. J'avais depuis longtemps constaté qu'elles avaient acquis droit de cité dans les langues arabes, sans subir aucun changement phonétique important. Or, tous les linguistes savent que, vers 1905, l'Égypte entreprit de créer une langue politique arabe adaptée aux nouvelles notions non seulement politique, mais économique, et que le fanatisme et le prosélytisme y aidant, tout fut fait pour que plus aucun mot de l'Europe ne puisse y paraître. Cet effort louable en soi et conçu de façon à respecter le génie propre de la langue arabe classique semble actuellement être remis en cause par l'invasion de mots politiques et surtout économique européen. Signalons que par contre en langue chinoise, tout est complètement sinisé et de façon radicale. Cela depuis le début du siècle. Cette invasion de mots économiques arabo-européens peut être un des signes du temps. Note en marge. L'accroissement des émissions en langue arabe provenant des pays occidentaux et pas destinés à la propagande est très sensible depuis quelques mois. Il m'a semblé que la voix de l'Amérique, au Sao, El Ameriki en arabe, avait encore accru le nombre de ses émissions en arabe depuis quelques mois. Il s'agit d'émissions très matinales qui s'adressent essentiellement aux pays arabes du Moyen-Orient. Par contre, du moins selon les apparences, les radios du monde communiste russe ou chinois ne font aucun nouveau effort spécial particulier en direction des pays de langue arabe. Il est peut-être utile de rappeler que toutes ces émissions sont diffusées non pas en arabe parlé, mais en arabe littéral. Arabe littéral modifié quelque peu par l'arabe égyptien politico-économique tel qu'il a été constitué vers 1905. Note bis en marge à quelques heures de temps de réflexion. Oui, en fait, dans les quelques mois qui précèdent, ce sont les services du département d'État qui ont développé le nombre et la puissance des émissions en arabe de la Voix de l'Amérique. Et de nouvelles écoutes, confirmant celles que nous avons prises au cours des derniers mois, montrent, par les horaires choisis, notamment 5 heures du matin, heure de Paris, que ce travail du département d'État commence par le Pakistan et le Moyen-Orient. L'intervalle entre Eisenhower et Kennedy. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le noter en ce bulletin, la Voix de l'Amérique, porte-parole officielle du département d'État et de l'administration, a été et est avérée de renseignements et commentaires sur le remplacement prochain de l'administration par... L'intervalle entre Eisenhower et Kennedy. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le noter en ce bulletin, la Voix de l'Amérique, porte-parole officielle du département d'État et de l'administration, a été et est avérée de renseignements et commentaires sur le remplacement prochain de l'administration ICO par l'administration Kennedy. La seule tendance que ces deux derniers jours encore on puisse noter est celle-ci. Tout est présenté de façon à persuader que la passation des pouvoirs de Nongamen ne changera rien à rien. Irrésistiblement, l'auditeur de radio est amené à constater, malgré le jeune âge de Kennedy, il s'agit de passation de pouvoir entre deux pères tranquilles. Du côté des radios du monde communiste, plus particulièrement des radios de la centrale de Moscou. Il y a eu un effort très précis qu'on ne peut guère qualifier que de la façon suivante. Un effort pour enfoncer Eisenhower en ses derniers jours de pouvoir. Cet effort peut présenter, et d'ailleurs présente, des aspects incroyables pour l'auditeur qui tient à rester lié à des idées raisonnables. La propagande contre la personne d'Eisenhower prend les aspects d'une propagande générale sur le thème, développé 10 minutes sur 15 dans les bulletins d'information, de l'agression des impérialistes américains contre Cuba.
Hey!
pouvez maintenant fermer les volets, éteindre votre télévision, ranger votre livre illustré, car l'émission invisible s'achève. Vous avez entendu aujourd'hui, par ordre d'apparition, Monica Zetterlund, Stella Cadente accompagnée par Philippe Glass, Richard Galliano, Reynaldo Hahn, Philippe Fesquet, Tenio Gemem interprétant une chanson de Robert Desnos mise en musique par Kurt Weill, Marc Mercier et en ce moment même Yvonne Elliman. Je profite de cette antépénultième émission invisible pour remercier chaleureusement Stella Cadente et Marc Mercier qui, avec une impeccable fidélité, ont assuré leur rubrique. Enfin, je voudrais dédier exceptionnellement cette émission à une auditrice qui, au moment de l'enregistrement, méritait une attention toute particulière. Cela a été un vrai bonheur de vous savoir avec nous et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.